Réponse banane. Les infos.
Bonsoir, vous écoutez Fréquence Banane, il est 18h06, voici l'actualité. À Hong Kong, un incendie dévastateur a éclaté dans un complexe résidentiel. Le feu, ayant commencé hier, est toujours actif dans de nombreuses tours du complexe. Les dernières nouvelles ont relevé au moins 55 morts et 279 disparus. L'agence américaine de cybersécurité, CISA, a lancé l'alerte concernant une faille de sécurité majeure permettant de contourner le chiffrage des messages d'applications comme WhatsApp ou Signal. En prenant le contrôle du téléphone, un pirate peut participer entièrement et voir tous les messages de la discussion, peu importe le chiffrage utilisé. CISA mentionne que le spyware n'est actuellement utilisé que envers des cibles de haute valeur. La station spatiale chinoise Tiangong, accueille le module Shenzhou-22 pour une mission d'approvisionnement et d'outillement pour réparer le module Shenzhou-20 qui a été un des vaisseaux ayant reçu des dégâts et pouvant être dangereux à son atterrissage. En France, le président Emmanuel Macron s'est rendu en Isère pour dévoiler les détails de son plan pour remplacer le service national universel. Le service militaire volontaire, ou SMV, s'agira d'un appel volontaire aux jeunes adultes d'une durée approximative de 10 mois, rémunéré environ 900 euros par mois. Finalement, les grèves contre le projet budget 2026 du canton vaudois continuent. Le projet comprend plusieurs coupes budgétaires dans le domaine public comme la santé ou l'étude. Les étudiants du Nil ont notamment continué des mouvements d'occupation en soutien du mouvement. Côté météo, au-dessus de Lausanne, il n'y a aucun nuage ce soir, mais il faudra néanmoins s'attendre à des températures frôlant le 0 degré. Demain, et ce dans toutes les zones lémaniques, il y aura un peu plus de nuages en prévision de la pluie prévue ce dimanche, avec des températures légèrement négatives aussi.
Bien le bonsoir à tous pour ce Micropolis du 27 novembre. Comment est-ce que va tout le monde ?
Eh ben écoute, ça va.
Ça va très bien, et toi ?
Ça va, et toi ? Du coup, vous, à la tech, ça se passe bien aussi ?
On survit.
Top. Le thème de cette semaine, le thème de notre Micropolis de cette semaine, c'est les jeux vidéo, les jeux de plateau, les jeux de table, enfin, tout ce qui concerne les jeux. Et on va pouvoir lancer tout de suite, enfin, on vous revoit du coup, tout de suite après le morceau Stop de Douche Froide. On l'a dit, le thème du jour pour ce Micropolis, c'est les jeux. Sous toutes leurs formes, ils nous permettent de nous divertir, de rencontrer des gens, socialiser avec eux et même d'apprendre des choses. Myriam en parlera tout à l'heure. Mais c'est surtout des moments vécus, des expériences amusantes, prenantes ou encore des retournements de situation qui créent des souvenirs. On gagne, on perd, on abandonne, on recommence. On en pleure, on en rit et par-dessus tout, on se plaint. Et c'est exactement ce que je vais faire. J'aime pas les limites d'inventaire dans les jeux solo. Ça n'a aucun sens. Genre, vous allez me dire que mon perso, un orc, capable de mettre à feu et à sang le royaume d'Ulfric, et qui chasse les dragons à main nue, ne peut plus se déplacer ni sauter, juste à cause d'un tout petit rikiki collier supplémentaire. C'est tellement pas intelligent, enfin, pareil pour les phases d'énigmes ahurissantes où il faut, attention, trouver comment sortir d'une salle dans laquelle on est enfermé, la salle étant totalement vide, à l'exception d'un bouton placé totalement par hasard au milieu de la pièce. À croire que nos cerveaux vont se liquéfier en réfléchissant un peu trop. Pour cette raison, rien ne vaut mieux qu'un bon retour aux sources avec les traditionnels jeux de table. Et ne me lancez pas sur les jeux en ligne, où ça va mal finir. Entre le random qui est pas content sur CS qui écrit 3 fois l'équivalent du traité de Versailles en insulte dans le chat pour se faire one tap au prochain round, ou les gens textes qui dépensent 5 salaires dans des skins décoratifs pour les exhiber dans des lobbies et tous les autres trucs insensés qu'on peut rencontrer, la chronique n'en finirait jamais. Alors on va sortir nos jeux de société, en prenant au passage un aspirateur, histoire de retirer les 18 cm de poussière et la colonie d'araignées qui se sont installées au fil des années, et on joue. Loin des écrans, loin des cons. Et on parle avec toutes seules autour de la table, et tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est ce que j'aurais dit si je m'étais pas fixé comme objectif de faire preuve d'autant de mauvaise foi que possible dans cette chronique. Mais vu que je l'ai fait... J'aime pas les gens qui rangent les jeux n'importe comment. Il y a des petits compartiments prévus pour toutes les pièces, alors pourquoi est-ce qu'elles mettent tout en vrac dedans? C'est des gens qui seraient capables à l'heure de manger de verser l'eau dans le plat juste parce qu'elles ont la flemme de chercher un verre. Et la nourriture, parlons-en. Il y a celles qui mangent en jouant et qui foutent des miettes partout sur le plateau comme si c'était une bavette. Avant de se saisir des cartes avec leurs mains crasseuses pleines de chips paprika couleur Trump. C'est dégueulasse. Et en plus, vu qu'elles prennent 100 ans à jouer, ça en exaspère toujours un qui va se mettre à souffler comme le grand méchant loup pour essayer de faire comprendre le moins subtilement au monde que c'est long et qu'elle veut jouer et qu'elle veut pas attendre et bla et bla et bla. Je trouve que c'est quand même fou de se plaindre autant dans le cadre d'un loisir. À croire qu'elle préférerait rester assis et fixer le plafond. Décidément, je comprendrai jamais le fait de geindre tout le temps. C'était Soufis de Kayakata en featuring avec Turbo Ikari. Maintenant, nous allons avoir droit à la chronique de notre camarade Gabriel.
Donc après avoir parlé de jeux de table, côté jeux vidéo, je ne sais pas vous, mais il n'y a pas beaucoup de jeux que j'attends. Depuis la sortie de grands jeux comme Silksong, Mario Kart, Bonanza, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses qui m'ont tapé dans l'œil. Cependant, il y en a un que j'attends vraiment. Et ça, c'est en printemps 2026, quand Tomodachi Life, une vie de rêve, va sortir. J'ai envie aujourd'hui de vous présenter un peu mon expérience que j'ai eue avec le plus 3DS et pourquoi je suis tellement hype pour la nouvelle sortie du jeu sur Switch 2. Donc, Tomodachi Life, c'est un jeu sorti sur 3DS en 2013 pour les Japonais et en 2014 pour le reste du monde. Il s'agit d'un petit jeu de simulation sociale fait par Nintendo, tout public dans la plupart des pays du monde. Je dis ça parce que, en effet, c'est un jeu un peu controversé dans certains pays, et dans certains pays, c'est la Russie. En effet, celui-ci a classé le jeu Peggy 3 pour tout le monde dans le monde occidental à un jeu plus 18, ce qui est en fait le premier jeu officiel Nintendo plus 18. Tout ça parce qu'il contenait possiblement des traces de relations homosexuelles, alors que c'est juste des bons amis dans la lore de Tomodachi Life. Bref, ça c'est les Russes. Concernant le jeu en lui-même, il était en fait hardcodé pour ne pas permettre ce genre de relation. Il fallait passer à travers certains glitches corrigés de la version japonaise pour pouvoir avoir ces relations qui ont apparemment mis le Kremlin en... Oui, voilà. Donc, autre fun fact, la correction du glitch justement que je vous disais avait été mal reçue pour les joueurs japonais. Allez savoir pourquoi. Bien heureusement, le jeu sur Switch 2 permettra d'avoir tout type de relation, puisque on a évolué dans notre ère. Donc, qu'en est-il du jeu en lui-même? À quoi s'attendre? La première chose qu'on va faire, ça va être de créer son personnage. Créer son personnage, c'est une activité extrêmement ludique dans le jeu, puisque l'éditeur de Mi est assez avancé. On y retrouve la création physique du Mi, sa taille, son visage, etc. Mais aussi sa voix synthétique, qui est vraiment une œuvre d'art dans le milieu du game design, puisque les voix sont irritantes possible, mais on les aime bien au final. Une fois votre sosie créé, on vous introduit l'île sur laquelle vous allez jouer, avec le complexe d'appartements où tous les Mi vivront ensemble, même s'ils se détestent parfois. Des magasins tels que un magasin de nourriture, un Ikea pour les appartements, un café, même un parc d'attractions. Tous ces bâtiments ont une spécialité qui les rend uniques et qui font aussi travailler les Mi de temps en temps pour gagner un peu d'argent de poche. L'île est constamment en mouvement, que ce soit pour le JT à midi ou le soir, pour des random rap battles sur la plage ou sur la place publique, des collectes de fonds pour une aventure spatiale, il y a toujours quelque chose à faire et toujours quelque chose à voir, ce qui rend le jeu vraiment dynamique. Dans l'immeuble, vous pourrez voir vos Mi évoluer socialement avec les autres Mi, vous pourrez les guider sur des interactions sociales qu'ils devraient ou ne devraient pas avoir, et aussi vous pourrez voir leur petite vie amoureuse se développer. En parlant de ça, justement, j'ai envie de vous raconter une petite histoire concernant cet aspect-là d'amour, finalement. Donc, il s'agissait de la période où j'étais en CFC avec des nouveaux amis que je ne connaissais pas, et j'ai redécouvert le jeu à ce moment-là. Donc, je streamais le jeu sur Discord pendant les cours, bien évidemment, et c'est là que un ami qui restera anonyme, mais que je vais quand même appeler Sacha ici, me demande de créer son crush au moment du jeu sur l'île. après les avoir fait mis ensemble un peu à la force, le Mi de Sacha a enfin l'audace et la volonté de confesser son amour. Donc, avec un peu de pep talk, je l'invite à le faire sur la plage. Et à ce moment-là, quand il va dévoiler sa flamme, quelqu'un est contre. Derrière un parasol sur la plage sort Walter White de la série Breaking Bad, qui vient rejeter cette demande, puisque lui aussi est amoureuse du crush de Sacha. Et après un moment de délibération fatidique, le crush décide d'aller avec Heisenberg et non pas Sacha, ce qui le laisse en pleurs sur l'appel Discord, même si nous on pleure de rire à cette situation vraiment vraiment unique dans l'univers des jeux Nintendo, je pense. Vous l'avez deviné, ce jeu est vraiment un jeu très loufoque japonais, mais c'est vraiment un jeu qui est fait pour être profité sans trop y réfléchir, puisque tout est exagéré au possible et tout est unique dans une expérience Two Nights Life. Pas deux expériences se ressemblent et je vous laisse en juger pour le prochain opus ou pour l'opus 3DS si vous en avez encore une. Donc pour finir cette chronique, je vais vous laisser en musique avec Reach for the Stars de Steve Wagoner, une petite chanson faite avec le moteur de voix du jeu.
Tu veux nous parler un peu de la musique que tu viens de mettre
C'était une musique qui était justement, comme je vous disais, faite avec le moteur de voix du jeu. Donc vous avez entendu un Mi chanter comme il le ferait dans Tomodachi Life. D'ailleurs, où on peut faire des concerts avec des paroles customisées. Encore une fois, une extravagance de Nintendo, ça c'est le point là.
Donc... Mais... Est-ce que c'est le même modèle ou c'est un autre que celui pour Animal Crossing?
Non, sur Animal Crossing, il parle anglais mais juste en très accéléré. Donc c'est un moteur différent.
Mm-hmm. Ok, nice. Est-ce que vous m'entendez?
On vous entend.
Trop bien. Bonjour, bonsoir tout le monde, j'ai pas encore parlé. Pour ce thème du jeu, on va faire un jeu. Ça paraît très cohérent. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais vous donner des expressions en rapport avec les jeux, et le but c'est d'essayer de trouver la définition de l'expression. Est-ce que c'est clair?
Ok.
C'est clair. On va commencer par une expression qui est très simple. Donner sa langue au chat. Ça veut dire quoi, donner sa langue au chat?
Rester bouche bée ou ne plus savoir quoi dire, quoi.
Pas exactement. Non.
Plutôt quand tu sais pas la réponse.
Ah oui, non, c'est vrai.
Ouais, aussi, ouais, c'est ça. Donc, donner sa langue au chat, c'est renoncer à trouver la bonne réponse. Okay. Donc, ça arrive quand on est enfant et qu'on nous pose une question et que on donne notre langue au chat.
Pas que quand on est enfant.
Alors, pas que quand on est enfant, c'est très vrai. Alors, jouer carte sur table.
Ça, c'est être franco.
Ouais.
Dire la vérité, pas mentir.
C'est ça, c'est être honnête, ne rien cacher. Et donc c'est un peu cette image de, dans tous les jeux de cartes, en fait, c'est juste poser toutes ces cartes sur la table en mode, vous avez mon jeu. L'expression d'après, c'est les dés sont jetés.
C'est un peu pour laisser le destin faire son travail, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est que la décision, elle est prise et on peut plus revenir en arrière. Parce que quand tu lances les dés, une fois que tu les as lancés, tu vas pas pouvoir changer l'issue. Avoir le jeu en main.
C'est avoir des bonnes cartes.
Ouais.
Avoir des bonnes possibilités, être dans le contrôle, dans la maîtrise de ce qu'on est en train de faire.
Trop beau, trop, c'est maîtriser la situation, c'est exactement le mot. Jouer à qui tout double.
C'est soit tu perds, soit tu gagnes, quoi.
C'est ça, c'est risquer de tout gagner ou de tout perdre. Passer la patate chaude.
Déflecter les responsabilités sur quelqu'un d'autre.
Ouais, et plus particulièrement, au-delà des responsabilités, le problème, juste. Refiler le problème à quelqu'un d'autre. Moi, perso, j'ai jamais joué à la patate chaude. Est-ce que vous avez déjà joué à la patate chaude? Parce que, j'ai découvert que c'était un jeu pour enfants, et je n'y avais jamais joué. Vous avez déjà joué au jeu de la patate chaude?
Pas non plus.
Il y a une version web où, justement, on donne un bout de mot, et il faut trouver un mot avec cette séquence de lettres. C'est le seul patate chose que j'ai joué.
Ok, moi j'ai joué... Enfin, c'est faux. J'ai joué à la patate chose au double, je sais pas si vous voyez ce que c'est,
ouais.
Le double.
Ouais.
Donc c'est le jeu où il faut trouver les mêmes signes. Et donc en fait, le concept de la patate chose, c'est quand tu trouves le même signe, le même signe sur la carte de ton voisin, tu lui donnes la carte et le jeu, enfin la personne qui perd, c'est celle qui a le plus de cartes, du coup. Mais donc la vraie version du jeu de la patate chaude, c'est un jeu qu'on joue quand on est enfant. Oui, je vous fais ma petite story time. Donc c'est un jeu qu'on joue quand on est enfant et en gros, on lance une musique et on se fait passer quelque chose. Et puis, le but, c'est de se faire passer le plus rapidement possible. Et quand on arrête la musique, si t'es la personne qui a le truc dans la main, bah t'as perdu.
Ok.
L'expression d'après, c'est mettre dans le mille.
C'est viser juste.
Ouais, c'est ça. C'est réussir précisément ce qu'on voulait faire. Donc ça, ça vient des fléchettes. L'expression avoir la main. Donc qui est un peu la même que avoir le jeu en main.
Oups. Bah avoir la main, ce serait un peu comme avoir la main verte, mais du coup juste dans un autre milieu.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire j'ai la main pour... pour faire quelque chose, j'ai la main pour mélanger des cartes, j'ai la main pour... Après, je me trompe peut-être. Hein.
Non, c'est plus être celui qui est prêt à faire quelque chose. Quoi, genre,
ouais, c'est être en position de décider.
Voilà.
Celui qui a la main, c'est celui qui va décider. Il en reste deux, jouer au chat et à la souris. Enfin, vous avez tous joué au chat et à la souris quand vous étiez enfant ?
À peu près.
Ouais.
Pour moi, c'était un jeu, je savais pas que c'était devenu une expression.
C'est une expression, et c'est une expression qu'on utilise dans le contexte amoureux.
Alors, je savais pas que c'était dans le contexte amoureux, mais c'est vite, en gros, s'éviter quand on cherche quelqu'un ou.
Alors, pas ouais, c'est enfin, du coup, moi, la définition que j'ai, c'est flirter, installer un jeu de séduction, mais sans jamais se décider, se tourner autour.
Okay.
Voilà. Donc en vrai, je pense que tu peux l'appliquer à d'autres contextes, mais voilà. Et la dernière, elle est. Enfin, moi, j'ai trouvé compliqué. C'est faire un pli. Déjà, est-ce que vous savez ce que ça veut dire faire un pli ? Genre littéralement parlant, dans un jeu.
C'est quand tu gagnes. Ouais, quand on récupère les cartes d'un coup, non ?
Eh ben ouais, faire un pli, ça vient du tarot. Donc c'est un jeu de cartes français, je crois. C'est un jeu de cartes auquel j'avais des potes qui jouaient beaucoup quand j'étais au lycée. Et en gros, c'est quand tu fais un pli, c'est que tu remportes toutes les cartes qui ont été jouées sur le tour. Et donc, ça veut dire quoi, faire un pli en tant qu'expression ?
Du coup, récupérer toute une récompense ou toute une cagnotte, quoi.
Non ? Ouais. Enfin, il y a un adjectif à ajouter. Donc oui, c'est réussir, mais c'est réussir d'une certaine manière.
Parfaitement.
Voilà. Enfin, pas parfaitement.
À la perfection.
Non, bien tenté, mais non.
Sans erreur.
Non.
Du mieux possible.
Non plus. C'est pas une question de qualité. C'est plus une question de chrono. Enfin, c'est une question de temporel.
Rapidement.
Voilà, réussir rapidement, facilement. Donc, voilà. Et maintenant, je vais vous laisser avec une musique typiquement suisse et même de Lausanne, qui est Sparadrap de Mary J.
Alors, moi, j'ai envie de vous parler d'un jeu télé. Un jeu tellement simple qu'on se dit qu'on va le comprendre les yeux à moitié ouverts sans se fouler. Et pourtant, préparez-vous, parce que ce petit jeu, il a laissé perplexe des tas de cerveaux plutôt brillants. Alors oui, je vais vous casser un peu la tête, mais gentiment, je vous promets, avec l'un des paradoxes les plus célèbres et les plus tordus de la culture populaire, le paradoxe de Monty Hall. Alors imaginez, vous êtes sur le plateau télé un peu kitsch, ambiance années 70 du jeu Let's Make a Deal. Trois portes sont devant vous. Derrière l'une, la voiture de vos rêves. Derrière les deux autres, une chèvre. Alors, pas forcément la chèvre adorable qu'on caresserait volontiers, non. Plutôt une chèvre qui semble vous dire...
Attends, mais tu préfères vraiment une voiture ?
Alors vous devez choisir une porte pour repartir avec ce qu'il y a derrière. Alors vous choisissez une porte et le présentateur, Monty Hall, qui lui sait où est la voiture, ouvre l'une des deux restantes. Et évidemment, il tombe toujours sur une chèvre. Ça serait pas drôle sinon. Et après, il vous lance la fameuse question.
Voulez-vous changer de porte ?
Et là, votre cerveau vous dit, bah, maintenant il reste deux portes, donc c'est du 50-50. Franchement, autant garder ma porte, hein, je me suis attaché, faut se faire confiance. Eh ben non, pas du tout. À cet instant précis, presque tout le monde se plante. La réponse, c'est qu'il faut changer. Changer, ça double vos chances de gagner, ou plutôt, ça les passe de 33% à 66%. Ce qui, soyons honnêtes, est quand même mieux que d'avoir une chèvre. Même si c'est sympa une chèvre, hein, mais bon. Et je vous vois venir. Mais pourquoi ? C'est n'importe quoi ! Et c'est là que le jeu devient génial. Parce que Monty Hall, derrière son décor un peu cheap, c'est une leçon de logique et de prise d'information. En fait, le présentateur n'ouvre pas une porte au hasard. Il vous donne volontairement une info. Il vous dit, en gros...
Ton choix initial avait une chance sur trois d'être bon. Et comme moi, je sais où est la voiture, je vais te montrer une mauvaise porte pour te mettre au défi.
Résultat, tout le poids des deux mauvaises portes se retrouve sur celle que vous n'avez pas choisie. C'est comme si les deux chèvres se mettaient ensemble pour dire...
C'est pas nous, c'est l'autre.
Changer de porte, c'est donc prendre les chances cumulées de deux portes, donc deux chances sur trois de gagner. Rester, c'est garder votre chance sur trois du début. C'est mathématique, c'est démontré, et pourtant ça a rendu des milliers de gens complètement fous. Même des profs d'uni, des statisticiens renommés, des physiciens, bref, des cerveaux plutôt sérieux se sont trompés. Quand le paradoxe a été rendu public dans les années 70, la réaction a été explosive. Des lettres en colère ont afflué, certaines signées par des mathématiciens et des lecteurs très instruits qui n'y croyaient pas et disaient des trucs du style
« Votre réponse est fausse, j'ai un doctorat, respectez-moi !»
Ou encore
« Impossible, vous ne pouvez pas avoir raison !»
Et quelques semaines plus tard, beaucoup ont dû se rendre à l'évidence.
« Ah oui, bon, ok, j'ai recalculé, vous aviez raison, j'ai un peu honte !»
Parmi les étonnements les plus célèbres, il y a Paul Erdős. C'est un légendaire mathématicien hongrois qui est connu pour sa capacité à résoudre des problèmes incroyablement complexes et abstraits. Alors vous le connaissez peut-être pas et c'est normal, mais croyez pas, c'est pas n'importe qui dans le monde des maths. Et même lui, qui était pourtant capable de manipuler des concepts combinatoires ou probabilistes d'un niveau stratosphérique, il a été surpris par ce paradoxe. Il aurait reconnu qu'un problème si simple en apparence, avec juste trois portes, une voiture et deux jolies chèvres, ça pouvait nous rendre complètement chèvres et totalement piéger notre intuition. En soi, c'est un peu rassurant pour nous, mais en même temps, ça montre la puissance des mathématiques derrière ce petit jeu de pâté télé qui a l'air de rien. Le paradoxe de Monty Hall est devenu plutôt connu grâce à cette histoire, et je pense qu'il continue encore aujourd'hui de casser la tête de pas mal d'étudiants en cours de probastat, moi y compris. Mais ce qui est beau dans cette histoire, c'est que Monty Hall nous montre un truc important, même en dehors des maths. Quand on obtient une nouvelle information, même si elle a l'air anodine, il faut parfois réviser son choix. On croit que tout est à 50-50, mais en réalité, l'univers n'est pas toujours aussi simple. Nos intuitions, elles sont pas toujours fiables. Et puis quelque part, c'est une bonne nouvelle. Changer d'avis dans ce jeu, c'est pas se contredire, c'est être intelligent. Alors la prochaine fois qu'on vous propose de changer de porte, que ce soit dans un jeu, dans un choix d'études ou dans votre vie, pensez à Monty Hall. Et dites-vous que parfois, ouvrir la porte d'un côté, c'est peut-être la meilleure idée.
Cette jolie petite chanson s'appelait Lily et a été faite par Pierre Perret. Laissons place désormais à la chronique de Myriam.
Merci Saba. Les jeux vidéo et moi, c'est comme deux inconnus qui prennent le métro aux mêmes heures tous les jours. On sourit quand on se voit, on est surpris quand l'autre n'est pas là, mais aucun des deux n'a fait le pas de discuter avec l'autre. Si on arrête les métaphores, les jeux vidéo ont toujours fait partie de ma vie, mais plus comme un personnage figurant. Ouais non, en fait, on n'a pas fini les métaphores. J'ai joué à la DS quand j'étais gosse. Je sais pas trop ce que ça m'a appris, mais c'était fun à l'époque. Sauf qu'il faut savoir que mon grand amour à moi, c'est les vieux papiers. Alors les jeux vidéo sont rapidement passés à la trappe au profit des contes d'abord, puis des poésies, des romans, enfin n'importe quel papier sur lequel il y avait quelque chose d'écrit. Pourtant, on vit dans un monde qui se digitalise de plus en plus. C'est comme ça qu'en CM2, donc la dernière année d'école primaire, ma petite sœur par exemple, elle avait un jeu vidéo sur lequel elle devait jouer régulièrement pour accumuler des points dans différentes manières. De matière, pardon. De mémoire, ça s'appelait jeu pédago. Quand j'étais en secondaire, ou au collège, ou école obligatoire, ou appelez ça comme vous voulez, on avait comme outil de travail des iPads sur lesquels l'établissement réglementait les accès et on avait du coup des jeux éducatifs comme... j'ai cru que j'avais des exemples en tête mais je m'en souviens plus, c'était il y a trop longtemps. Donc malgré mon non-intérêt pour les jeux vidéo, ils étaient quand même autour de moi et ont participé à mon apprentissage. Plus tard, je sais plus si c'était fin de secondaire ou début de gymnase, on a un autre jeu vidéo, beaucoup plus jeu vidéo cette fois-ci, qui s'est présenté comme un bon moyen d'apprendre, Assassin's Creed. Alors avant de me huer, sachez que je n'y ai jamais joué, donc je ne sais même pas de quoi je parle, mais dans mon atelier optionnel d'histoire, on avait étudié un dossier qui présentait ce jeu comme un bon moyen d'apprendre l'histoire avec un grand H, notamment de par les paysages qui ont vraiment été réfléchis et étudiés pour être le plus réaliste et le plus réel possible. On peut citer l'exemple de la Révolution française, c'est l'exemple que j'avais étudié en classe, de la Boston Tea Party, de l'Égypte antique, etc. D'ailleurs, j'ai appris d'un super article de la RTS que le jeu possédait en fait un mode Discovery Tour qui permettait justement d'explorer le décor sans plot, juste observer ce qui se passait à l'époque. Et fun fact, l'université Lausanne avait même proposé un cours public intitulé « Rien n'est vrai, tout est permis, l'histoire avec Assassin's Creed Origins » au moment de la sortie du jeu, donc en 2018. Enfin, plus tard dans mon cursus scolaire, c'est-à-dire il y a deux jours, je découvre une nouvelle utilisation pour le moins intéressante des jeux vidéo. Pour le contexte, mardi 25 novembre, donc avant-hier, c'était la journée de lutte contre les VSS, les violences sexistes et sexuelles. Pour l'occasion, les étudiants textes de l'UNIL, moi compris, ont reçu une invitation pour des sessions jeux vidéo. Vous comprenez pas le rapport? Moi non plus. Du coup, je vous explique. L'UNIL a imaginé le jeu Alternative pour une relation sans violence, qui est un jeu vidéo qui... Vous savez quoi, j'ai juste vous teaser en lisant le mail. Donc là, je vous lis le mail. Ce jeu vidéo permet d'explorer 5 thématiques de la violence dans le couple. En incarnant différents personnages, vous pourrez reconnaître les signes précoces de violence, comprendre les dynamiques abusives et découvrir des réponses adaptées, que ce soit en tant que témoin, victime ou auteurice. Voilà. Je sais pas si on entend ma perplexité dans ma voix, mais vous saurez que j'ai du mal à trouver cette innovation réjouissante, mais enfin bon, c'est que mon avis. Donc, on peut apprendre des jeux vidéo, que ce soit littéralement que ce soit littéralement parlant, j'avais besoin de mettre mon emphase, en bossant des cours, ou encore dans le fond, derrière le plot principal qui est de buter tout le monde, ou plutôt des jeux de rôle pour faire face à des situations de la vie. Mais vous en pensez quoi, vous, des jeux vidéo comme moyen d'apprendre ?
Alors moi, j'ai un avis un peu en profondeur sur ce thème, parce que, étant en école d'informatique, j'ai un cours actuellement en master qui s'appelle Game Technology, où on doit créer un jeu vidéo sérieux. Un jeu vidéo sérieux, c'est exactement ce que tu décris, donc c'est un jeu qui, à travers le gameplay, te fait inculquer une valeur, un des trois C, donc connaissance, compétence et... J'oublie le dernier. Mmh. Bref. Donc, techniquement, on nous a martyrisé avec le concept de jeu sérieux pendant très longtemps. Et en fait, la définition est tellement vaste qu'il y a beaucoup de jeux qui pourraient s'appliquer ou qui pourraient ne pas s'appliquer. Typiquement, un des jeux qu'on nous a montré comme étant un jeu sérieux, ce serait un jeu où on conduit bourré, le but étant de faire le plus de chemin possible, avoir le plus de points, et quand on crash, on a un beau message en mode « Vous êtes mort, bien joué, voici le nombre de points que vous avez eu ». Et ça, c'est un jeu sérieux, puisqu'il t'inculque qu'il ne faut pas boire au volant, puisque plus tu bois, plus tu as ta vision qui trouble, plus tu bois, plus ton temps de réaction est lent.
Mais en fait, c'est un peu ce que je pense. Je suis pas contre les jeux vidéo sérieux qui inculquent des valeurs comme ça, mais en termes de valeurs de la vie tous les jours, c'est vraiment mon ressenti quand j'ai lu le mail justement sur ces jeux sur les VSS. Un jeu de rôle pour expliquer des trucs dans la vie, ça peut se comprendre, mais en même temps, je suis assez perplexe. Genre, moi, le truc de... Enfin, moi, c'est vraiment le mail de mardi qui m'a énervé, mais c'est genre ce truc de découvrir des réponses adaptées, que ce soit en tant que témoin, victime ou autrice. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Jouer la personne qui est violente ?
Bah oui, ça veut dire que tu joues soit un témoin, donc par exemple un ami d'un couple qui ont des problèmes, et après dans le couple, il y a les deux choix. Mais je suppose que.
C'est giga perturbant. Hein.
Ce qui m'étonne particulièrement, c'est que c'est tellement pas nécessaire de le faire sous forme de jeu vidéo. Enfin, il y a tellement de livres, il y a tellement de... Je sais pas en termes de films, il y a des films, des livres, des pièces de théâtre. Il y a tellement d'autres médias et supports différents. Tu peux même juste faire du jeu de rôle dans la vraie vie, du théâtre, de l'impro avec d'autres gens. Pourquoi le faire sous forme de jeu vidéo ?
Ouais, voilà, c'est moi, ça m'a... pour le coup, quand je disais innovation... L'innovation, c'est bien. Là, on est sur une thématique beaucoup plus large, mais l'innovation, c'est bien, mais là, je la trouve un peu trop poussée. T'en penses quoi, toi, Fabio ?
Je pense surtout, ouais, c'est un peu ce qu'il disait, Saba, c'est que ça dépend des sujets, je pense, mais dans le mot jeu vidéo, t'as quand même le mot jeu. Et c'est bizarre d'associer le mot jeu au mot violence, surtout dans ce contexte-là. Pour reprendre l'exemple qu'il disait Gabriel, c'est différent dans le sens où t'as. Enfin, c'est aussi bizarre parce que faut pas que les gens commencent à se dire ah bah je vais faire pareil, je vais essayer d'aller le plus loin possible avant de faire un accident, c'est un peu voilà. Mais c'est aussi un peu différent dans le sens où t'as quand même cet aspect de t'essaies d'avoir quelque chose et d'avoir un enjeu derrière, t'essaies d'avoir le plus de points, je sais pas trop quoi. Je sais pas trop comment ils vont appliquer ça dans ce contexte de ce jeu-là que tu décris, Myriam, ouais. Mais c'est vrai que c'est un peu bizarre, quoi.
Je sais pas, j'hésite à m'inscrire. Du coup, il faut s'inscrire à des sessions de vidéo. J'hésite à m'inscrire, mais pas parce que je suis intéressée, mais juste parce que je suis intriguée de pourquoi. Enfin, le pourquoi du comment.
Après, il faut voir comment c'est fait. Je pense que c'est peut-être qu'ils l'ont juste très mal pitché et qu'en vrai, c'est quand même un truc qui peut être utile. Mais
je sais pas trop, parce que je sais que quand j'étais à l'EPFL, j'ai fait l'EPFL avant l'UNIL. Quand j'étais à l'EPFL, il y avait ce truc sur le Moodle. C'était un cours qui s'appelait le cours respect ou un truc du genre. Je sais pas si tu vois de quoi je parle. Et ce cours-là, c'était pas un jeu vidéo, mais c'était assez bien fait. Donc en fait, en gros, c'est genre tu choisis la situation que tu veux étudier. Donc c'est pour prévenir le harcèlement, et donc tu choisis la situation que tu veux, et donc tu regardes une vidéo d'une personne qui décrit une situation, et après tu dois choisir c'est quoi ta manière de réagir face à cette situation. Et tu vois, ça, je trouve ça assez sain, parce que genre tu ne prends pas part à la situation, enfin c'est vraiment t'es genre en mode témoin, donc tu prends pas part à la situation, donc il n'y a pas ce truc de tu joues le rôle de la personne qui fait la violence, quoi.
Ouais, mais justement, le côté immersif, c'est ça qui rend un jeu vidéo plus fort que d'autres médias tels que le cinéma ou la vidéo. C'est que vraiment, le joueur s'immerse dans le rôle et s'immerse dans...
Le joueur s'immerse dans le membre du couple qui est violent.
Oui, je veux dire, moi je comprends le message comme quoi... il faut se rendre compte qu'on est violent pour commencer à aller mieux. C'est comme un alcoolique. Une fois qu'il se rend compte qu'il est alcoolique, c'est ça la difficulté de la chose, vous voyez ?
Ouais, je vois. Ouais, je sais pas.
En tout cas, c'est comme ça que je le vois, j'ai pas joué à ce jeu-là.
Non, mais non, il est vraiment tout nouveau, genre vraiment.
Mais je veux dire, typiquement, c'est clairement un cas d'exemple que nous, on aurait pu voir dans notre cours, tu vois. Donc,
ouais, je vois ce que vous voulez dire. Mais au-delà des valeurs de la vie de tous les jours, genre pour les cours, est-ce que vous trouvez intéressant de présenter les cours et les apprentissages purement académiques sous forme de jeux vidéo ?
Alors, j'ai pas eu l'occasion d'avoir de jeux vidéo dans un contexte académique, pardon. Par contre, je sais une chose, c'est que l'intégralité de mon anglais a été appris par le biais de vidéos YouTube pour le jeu Minecraft. C'est tout. Si vous voulez apprendre l'anglais, juste vous jouez à ça, vous avez à peu près tout ce qu'il vous faut pour passer à peu près toute l'école obligatoire.
Story time, mon prof d'anglais en réunion, c'est pas moi qui l'a dit, mais c'est une pote, en réunion parent-prof, donc vraiment, donc il est 22h, donc c'est ma pote qui était avec sa maman, qui étaient tous les deux éclatés, explosés, genre étaient vraiment, elles étaient fatiguées et tout, il leur sort des vidéos Minecraft, et il explique, avec les vidéos Minecraft qui tournent, pourquoi est-ce que c'est une bonne idée de regarder des vidéos Minecraft pour apprendre l'anglais. La prof, enfin la maman de ma pote, du coup, est ressortie traumatisée de ce rendez-vous parent-prof. Voilà, pardon, je t'ai coupé.
Non, mais je vais plus rien dire, mais traumatisé.
Ouais, voilà, traumatisé, exactement.
Mais là, du coup, aussi, je ressaute dans le truc. Il y a les jeux sérieux comme ce qu'on disait avant, et aussi la gamification, telle que Duolingo, qui fait ça très bien, Quizlet, avec justement ce système de cartes qui est de la gamification.
Oui, et puis genre maintenant, ils ont même des nouvelles fonctionnalités où tu dois. Genre, il y a un jeu de fusée qui doit éviter les mauvais mots, enfin
oui, ça fait des ça fait depuis le cycle d'orientation que j'ai pas utilisé Quizlet, je pourrais pas dire j'apprenais encore l'allemand, donc pour dire à quel point c'était utile.
Alors va en médecine ou en bio, nous en bio on l'utilise Quizlet.
Non, bien sûr mais tout mon respect pour les Allemands qui nous écoutent,
mais... Est-ce que vous, enfin là on a beaucoup parlé de jeux vidéo, vous pensez quoi des jeux de manière générale pour apprendre? Genre, je sais pas si, enfin moi genre j'étais très initiée aux jeux de cartes quand on était enfant, quand il fallait faire du memory, tout ça, vous en pensez quoi, les puzzles aussi?
Bah, je pense que du coup quand c'est dans un contexte qui est moins formel, moins académique, c'est une des meilleures manières d'apprendre, parce que apprendre quand tu t'amuses, t'apprends beaucoup mieux. Mm-hmm. Et après c'est vrai que quand c'est vraiment, bah, comme on parle un cours avant, c'est peut-être différent parce que ben c'est pas non plus la même attente, mais ouais, je pense que t'arrives à, surtout si t'es un enfant, t'arrives à avoir à trouver du fun dans ce que tu fais, ben, tu vas beaucoup plus vouloir le faire et beaucoup plus vouloir apprendre. Donc, ouais.
Est-ce qu'il y a un jeu qui t'a marqué, Fabio, dans ta vie ?
Dans ma vie en général ?
Oui, dans ta vie en général. Très profonde question, vas-y.
Alors, j'avoue qu'un jeu pour apprendre, j'ai pas vraiment.
Et un jeu de manière générale ?
Moi, j'aime bien les jeux de société en vrai.
Ok, t'as un jeu de société préféré ?
Ouais, j'aime bien jouer au Yas. Tant que bon Suisse.
Oh, le Suisse. Oh, c'est tellement Suisse.
Écoute, on entend l'hymne national derrière lui.
Ok, et toi, Gabriel, un jeu préféré Un jeu qui t'a marqué, un jeu préféré
Là, je repense à l'époque nostalgique de la Wii, où je rentrais et que je jouais à Mario Galaxy. Et ça, c'était des bons moments.
Ok.
Quand on n'avait pas encore des évaluations très stressantes.
Ouais, il était loin, ce temps. Hein.
Il était loin.
Et toi, ça va?
C'est jeu vidéo ou jeu...
Whatever, ce qui t'a marqué le plus dans ta vie.
Alors, disons, jeu concret que tu peux faire en extérieur avec des gens, il y a la carotte. Est-ce que ça parle peut-être à quelques personnes autour de la table qui seraient scouts ou quelque chose dans le genre ?
Absolument pas.
En gros, tu prends un bâton, tu le tailles en pointe, tu te mets face à une autre personne, enfin les deux face à face, vous regardez. Mm-hmm. Ensuite, tu balances le bâton en essayant de le planter à côté du pied de l'autre personne. Et si tu arrives à le planter, cette autre personne doit déplacer son pied à côté, enfin vers la position où il y a ce bâton qui s'est planté.
Okay.
Et ensuite, chacun, vous tirez chacun votre tour, et à la fin, vous allez vous écarter de plus en plus la position de vos jambes. Et en fait, à un moment, bah, c'est le premier qui tombe, bah, il perd.
Ok, très bien.
Je connaissais pas du tout.
Moi non plus, mais je ne suis pas scout. Mais après, genre, les scouts, ça produit beaucoup de jeux, de ce qu'on m'a dit.
Ça en produit pas.
T'es scout ?
J'étais.
T'étais scout, ok. Et du coup, je me pose la question à moi-même, quel jeu m'a marqué le plus ? Moi, je dirais, c'est pas mon jeu préféré, mais je dirais que le jeu qui m'a marqué le plus, c'est le Uno. Parce que c'est définitivement le jeu Enfin, c'est le premier jeu de société concret auquel j'ai joué dans ma vie. Et c'est le seul jeu de société où, encore aujourd'hui, je suis incapable de vous dire les vraies règles du jeu de société.
Parce que personne ne joue avec les vraies
règles. Personne ne joue avec les vraies règles. Mais le souci, c'est que du coup, moi, j'ai de la famille en Algérie, justement, et on connaît moins l'Uno là-bas. Donc, le jour où j'ai ramené un jeu de cartes de Uno, donc je présente mes règles à moi. Puis mon père qui passe derrière présente ses règles à lui. Puis après ma mère présente les siennes. Et du coup juste on ne joue pas à ce jeu. Parce qu'on a présenté le jeu, ça a l'air très fun. Mais juste personne n'a les mêmes règles. C'est définitivement un jeu pour lequel on pourrait lancer une guerre, je pense.
Carrément.
Juste sur les règles.
On arrive gentiment à la fin de l'horaire qu'on avait de dédié. Donc l'émission s'est bien passée pour tout le monde, j'espère, dites-moi.
Oui.
Oui, on a eu un problème technique, mais on a survécu à ce problème technique.
Mais non.
Donc voilà, mais si on a survécu. Bah,
si,
enfin, on a eu un problème. Mais non.
Non, on est tous morts aussi.
Donc bah du coup, merci à toute l'équipe qui a participé ici, merci à la tech aussi.
Oui, ouais. Merci Maria, merci tu beaucoup. Gères.
Et on se retrouve la semaine prochaine, cette fois-ci pour un café kawa.
Fréquence banane, les infos.
Bonsoir, vous écoutez Fréquence Banane, il est 19h08 et là vous attendez juste One Republic, leur titre Mirage. Voici l'actualité maintenant. À Hong Kong, un incendie dévastateur a éclaté dans un complexe résidentiel. Le feu, ayant commencé hier et toujours actif aujourd'hui, est présent dans à peu près 3 tours du complexe sur 7. Les dernières nouvelles ont relevé au moins 55 morts et 279 disparus. L'agence américaine de cybersécurité CISA a lancé l'alerte concernant une faille de sécurité majeure permettant de contourner le chiffrage des messages dans les applications telles que WhatsApp ou Signal. En prenant le contrôle du téléphone d'un des participants, il est possible de voir la discussion entière en clair des deux côtés. CISA mentionne que le spyware utilisé par les États-Unis ne cible que les cibles de haute valeur. La station spatiale chinoise Tiangong accueille aujourd'hui le Shenzhou 22, une navette sans équipage afin de ramener des provisions et surtout de l'équipage pour réparer un des vaisseaux amarrés à la station qui a eu des défauts techniques et qui rendrait son atterrissage dangereux. En France, le président Emmanuel Macron s'est rendu en Isère ce matin pour dévoiler les détails de son plan pour remplacer le service national universel. Le service militaire volontaire s'agira d'un appel volontaire aux personnes, aux jeunes adultes d'une durée approximative de 10 mois et rémunéré à peu près entre 900 et 1000 euros par mois. Finalement, les grèves contre le projet budgétaire du canton vaudois 2026 continuent. Ce projet comprend plusieurs coupes budgétaires, notamment dans les secteurs publics tels que la santé et l'étude. Les étudiants du Nil ont notamment continué les actions d'occupation de leurs bâtiments en soutien du mouvement. Côté météo, ce soir, le ciel sera dégagé sur toute Lausanne et on devrait commencer à apercevoir quelques nuages à partir de demain, annonçant la chute de pluie de plusieurs jours. Débutant à partir de dimanche. Sur toute la région lémanique, les températures resteront stables, frôlant les limites négatives, enfin le début des limites négatives sur la durée du week-end.